Bonjour, je m'appelle Philippe Silverzahn. Bienvenue dans un nouveau podcast. Le thème aujourd'hui, une entreprise en croissance peut-elle rester elle-même? Alors, un des articles de foi du management est que passer la phase entrepreneuriale, qui est vue comme créative mais brouillonne, une entreprise en croissance doit se structurer et adopter les, entre guillemets, bonnes pratiques de gestion pour se conformer aux normes institutionnelles. Management professionnel, structure, processus bien défini, méthodes établies, etc. En somme, abandonner sa singularité qui a fait sa réussite jusque-là. Alors j'ai rencontré de nombreux dirigeants qui en sont convaincus, mais il existe heureusement quelques exceptions. Des dirigeants qui résistent courageusement à ce modèle mental et qui n'ont en général pas à le regretter. Alors la scène se passe il y a quelques mois. Je participe au séminaire stratégique d'une PME familiale du secteur industriel. Le thème, comment aborder la prochaine phase de croissance de l'entreprise. Nous sommes 5 dans la pièce, le dirigeant, ses 2 plus proches associés et 2 invités experts, un consultant et moi-même. Alors, ce consultant a un pédigré très imposant, il a conseillé plusieurs startups dans leur phase de croissance, notamment pour leur démarche de financement. Et il est catégorique, il faut absolument que l'entreprise se structure si elle veut lever des fonds, ce qui est indispensable pour financer la croissance visée. Elle doit recruter des managers professionnels, constituer un comité stratégique avec des pointures, je cite, pour rassurer les banques et les investisseurs potentiels. Enfin bref, il faut pratiquement tout changer. Alors, il faut dire que l'équipe dirigeante ne ressemble pas à l'idée qu'on s'en fait habituellement. Le dirigeant a pris la succession de son père il y a une dizaine d'années alors que l'entreprise était encore assez petite et il a piloté une croissance régulière. Dans le triumvirat qu'il forme avec ses 2 associés, il n'y a pas de rôle bien défini. L'entreprise n'a ni directeur financier, ni directeur des ressources humaines. Les 3 dirigeants font aussi bien de la stratégie que de l'opérationnel. Venant du terrain, ils maîtrisent toutes les arcanes de leur métier et sont aussi à l'aise avec un banquier qu'avec un contremaître dans l'usine. Ce fonctionnement complètement organique est inhabituel, mais ça marche plutôt bien. Car malgré la crise Covid qui sévit durement dans ce secteur, l'affaire se développe assez rapidement. Alors je suis évidemment très impressionné par le discours du consultant, mais je ne partage pas du tout son avis. Alors bien sûr, une entreprise de 500 personnes ne peut pas se gérer exactement comme lorsqu'elle en avait 10. Au début de sa vie, sa taille réduite fait que le fondateur est au contact direct de tous les collaborateurs. Lorsqu'elle grandit, le contact direct devient plus difficile, puis il devient évidemment impossible. C'est pour cela qu'on met en place des processus. L'objet de ceci est de formaliser la connaissance sur la façon de résoudre les problèmes récurrents que connaît la vie de l'organisation, production, distribution, etc. Le fondateur n'est plus présent physiquement auprès de chaque collaborateur, mais le processus, en quelque sorte, le remplace. La mise en place de ces processus est donc nécessaire, mais cela ne signifie pas qu'il faille tout changer. D'autant que le moyen principal pour le fondateur d'être présent sans l'être physiquement n'est pas le processus mais les modèles mentaux de l'entreprise. Le cœur de toute organisation est en effet constitué d'un petit nombre de croyances fondamentales, généralement 2, qui en définissent l'identité. Si ces croyances fondamentales sont assumées de façon équilibrée, ce cœur est créatif. L'entreprise s'appuie sur une identité forte, non pour en être prisonnière et dire « c'est toujours comme ça qu'on a fait », mais pour se projeter dans le monde. Voici comment nous faisons les choses. L'enjeu face aux changements importants que représente une forte croissance est donc de résister à la tentation de tout changer. Dans une autre entreprise avec laquelle je travaille, qui a une très forte croissance et qui compte maintenant 20 000 employés, j'entends ainsi de façon récurrente « Maintenant que nous sommes une grande entreprise, nous devons être plus structurés avec des processus très clairs et des valeurs explicites. » Alors ça semble très logique, comme une évidence, mais ça n'en est pas une. Ce n'est rien d'autre qu'un modèle mental. Alors le plus amusant, c'est qu'au cours d'un séminaire dans cette entreprise, l'une des collaboratrices s'est exclamée « Il y a 15 ans, lorsque nous avons atteint 2000 personnes, nous nous disions exactement la même chose, qu'il fallait des processus clairs, etc. » Ce qui marche, c'est d'aborder la question de la croissance non pas en reniant l'identité de l'entreprise et sa façon de faire, mais au contraire, en fonction de cette identité. Il ne faut pas dire « maintenant que nous sommes grands, nous devons avoir un ou une DRH », mais plutôt « compte tenu de qui nous sommes, cela aurait-il un sens d'avoir un ou une DRH et quel type de DRH ?» Il est parfaitement acceptable, quoi qu'en pensent les grands prêtres du management normatif, de répondre non. En fait, il s'agit d'assumer et de développer la singularité de son entreprise. Alors, il y a en ça rien de nouveau, en fait. Être capable de se différencier est même l'un des préceptes de base de la stratégie. On gagne rarement en copiant les recettes des autres, et la différenciation ne concerne pas que les produits, elle concerne aussi l'organisation, la façon dont on fait les choses. Naturellement, en ne se conformant pas aux préceptes normalisés, on s'expose aux réticences de certains partenaires. Le banquier sera choqué de ne pas avoir un directeur de financier comme interlocuteur. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Après tout, les cash flows sont le seul principe de réalité auquel il doit faire attention. La recette de la croissance réside sans doute dans cet équilibre difficile à trouver entre la préservation du cœur identitaire et le changement de ce qui doit l'être, tout en s'assurant qu'une tension créatrice soit maintenue entre les deux. En tout cas, une chose est sûre, accueillez avec une grande méfiance ce qui vous explique qu'il faut se conformer aux normes. Les entreprises extraordinaires ne le sont pas devenues en suivant les normes, mais bien en les créant. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzahn.com. À bientôt.